Santé pour tous. Santé pour tous. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolloux. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Pendant très longtemps, les soins intégrés efficaces et le soutien aux personnes touchées par le VIH n'ont pas été considérés comme des nécessités. À l'heure actuelle, la reconnaissance croissante de l'importance de ces soins offre de nouvelles possibilités d'aider les personnes séropositives et celles qui les soutiennent aux dépens d'elles. De grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH-SIDA. Au titre de ces progrès, on peut citer le perfectionnement continu des méthodes de diagnostic, l'accès aux antirétroviraux et le suivi biologique qui ont considérablement améliorer le confort et la survie des personnes vivant avec le VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Le numéro d'aujourd'hui porte sur les soins et soutiens dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans notre pays. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Des décès non liés au sida ont augmenté en Côte d'Ivoire et l'on constate un plus large éventail de complications que dans le passé. Il est question aujourd'hui de l'offre du paquet complet de soins d'infection à VIH au stade avancé IVSA pour un impact à terme sur la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au VIH et au sida. Les étapes avec Dr Mémin Hélène, chef de service soins et soutien du programme national de lutte contre le sida PNLS.
L'ONU-SIDA a décidé que d'ici 2030, il doit avoir une élimination du VIH-SIDA. Élimination du VIH-SIDA, ça ne veut pas dire que c'est fini complètement. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles infections, de nouvelles contaminations. On doit faire en sorte que ceux qui sont déjà contaminés, connus, qui sont sous traitement, continuent à prendre leur traitement, puisqu'on dit que c'est un traitement à vie. Quand on a fait le dispositif, on a harmonisé tout ce qui était soins palliatifs, santé positive, dignité, etc. Et on en a sorti 8 composantes. Donc, on ne peut pas les occulter. Et puis, faire en sorte que le taux de décès diminue. La première composante, c'est le soutien médical, le soutien psychologique, le soutien spirituel, le soutien social, les soins soutien nutritionnel et alimentaire, le soutien économique, le soutien juridique et la dernière composante, soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage qui est spécifique aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Éducation, les enfants qui sont en âge d'aller à l'école dans le milieu scolaire et mise en apprentissage, ceux qui ne sont jamais allés à l'école, qui ne peuvent plus intégrer le milieu scolaire ou bien ceux qui étaient dans le milieu scolaire qui sont sortis et qu'ils apprennent un métier pour se prendre en charge. Je rappelle aussi qu'avant, on disait soutien psychosocial. Avec la mise en place du dispositif, aujourd'hui, on parle de soutien psychologique à part et le soutien social à part. Parce que le contenu n'est pas le même. Chaque composante a des sous-composantes. Le soutien médical, il a 10 sous-composantes. Dans la prise en charge aujourd'hui, tout ce qui n'est pas traitement ARV ou traitement des infections opportunistes est soins et soutien.
La sous-composante dans la prise en charge est relative aux soins et soutiens. Les détails avec Dr Mémin Hélène.
Tout ce qui est douleur, tout ce qui est symptômes comme la fièvre, la diarrhée, etc. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la thérapie préventive de la tuberculose. C'est de faire en sorte que quelqu'un qui est dépisté positif puisse ne pas faire de tuberculose pour accompagner le VIH. Donc, on donne un traitement pour prévenir la tuberculose, mais en ayant pris soin de s'assurer que cette personne ne fait pas déjà la tuberculose. Sur 6 mois, mais il y a les enfants de 0 à 5 ans qui vivent dans un milieu où il y a un patient tuberculeux. Il faut aussi les prendre en compte, s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés et s'ils ne le sont pas, on leur donne aussi 6 mois de traitement pour prévenir la tuberculose. Parce que si le patient tuberculeux n'est pas bien pris en charge, il va développer ce qu'on appelle une tuberculose multirésistante. Et le traitement de cette tuberculose multirésistante, elle coûte 6 millions par mois. En plus de ça, il faut rechercher les sujets contacts, c'est-à-dire les personnes tu as été en contact avec ce patient tuberculeux, si d'aventure on découvre qu'il fait la tuberculose. Il y a le suivi communautaire, c'est-à-dire il y a le suivi en milieu clinique, mais il y a le suivi en milieu communautaire qui se fait. Cinquièmement, c'est le conseil pour l'observance au traitement antirétroviral. Si la personne n'est pas observante, s'il ne prend pas correctement son médicament à dose prescrite, à heure prescrite, il va développer une résistance. Donc, dès qu'il est dépisté, avant même de le mettre sous traitement, on fait conseil à l'observance, on appelle pré-conseil à l'observance. Le jour où vous le mettez sous traitement, vous donnez aussi ce counseling à l'observance. Et pendant tout le suivi de ce patient, vous vérifiez s'il prend correctement son traitement ou non. S'il ne prend pas bien, ça va se traduire dans la charge virale qui ne sera pas supprimée ou indétectable. C'est une chaîne. Il y a l'éducation thérapeutique du patient. Sachez que c'est offert aux gens qui ne sont pas stables. La stabilité va reposer sur 5 critères, dont la charge virale indétectable ou supprimée. Il y a aussi la recherche systématique des IST chez le PPVIH à chaque visite.
Concrètement, les IST se transmettent principalement d'une personne à une autre lors de relations sexuelles sans préservatif et les IST font le nid du VIH. C'est ce que dit Dr Mema.
À chaque visite, il faut voir s'il n'y a pas une IST en dessous. Et s'il y en a, il faut aussi rechercher les sujets contacts de cette personne qui fait l'IST pour casser la chaîne de contamination. Parce que s'il y a une IST, ça veut dire qu'il y a ouverture. S'il n'y a pas ouverture, le VIH ne rentre pas. Mais l'ouverture, les plaies peuvent être microscopiques, non visibles, ou vraiment il y a des plaies aussi que tu vois qu'il faut prendre en charge. Que ce soit le comportement qu'il fait, que ce soit dans la bouche, que ce soit dans l'anus, s'il y a une plaie, il y aura contamination. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas contamination. Autre élément, c'est la distribution systématique à chaque consultation des préservatifs et gels lubrifiants à ces personnes pour qu'ils puissent se protéger, pour éviter de se contaminer eux-mêmes ou de contaminer d'autres personnes. Le dernier, c'est la prévention du cancer du col de l'utérus à 3 niveaux. Le cancer du col de l'utérus vient par la contamination au papilloma et elle concerne essentiellement les femmes. Si vous avez eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui a le papilloma virus qui vous a contaminé, quand vous allez grandir, je parle des femmes, vous allez développer un cancer du col de l'utérus. Donc dans ce cas-là, on fait la prévention primaire en vaccinant les jeunes filles vierges à partir de 9 ans. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de papillomavirus avant de vacciner ces enfants. C'est inclus dans le calendrier national de vaccination. La deuxième, c'est la prévention des lésions précancéreuses chez la femme PPVIH. Si on trouve des lésions précancéreuses, on les traite pour ne pas que la personne arrive au stade cancer. Mais si elle est déjà au stade cancer, quand vous les dépistez, nous les référons au service de cancérologie pour leur prise en charge. Ensuite, c'est le soutien psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apporte un soutien psychologique au patient et à sa famille. Deuxième élément, c'est l'annonce adaptée du stade sérologique chez l'enfant et l'adolescent. Mais aussi, il faut gérer la question de la transition des adolescents de la pédiatrie à la prise en charge adulte. Parce que dans le système sanitaire ivoirien, à partir de 15 ans, les enfants sont référés dans les services des adultes. Et s'ils ne sont pas pris en charge, comme on avait l'habitude de les prendre en charge en pédiatrie, chouchoutés, accompagnés, quand ils arrivent là-bas, ils se sentent délaissés et puis ils ne vont plus suivre les soins et puis ils ne prennent plus de médicaments et se réveillent.
Une autre aide visant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida est le partage dans des groupes de soutien ou autosoutien.
Il y a la mise en place des groupes de parole ou de soutien pour permettre aux gens d'échanger leur expérience, quand on leur a donné leur statut, comment ils ont fait en termes de traitement, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme stratégie qui leur a permis de se maintenir dans les soins jusqu'à là. Donc ce sont des groupes où ils se retrouvent. On fait des groupes de soutien ou d'auto-soutien, mais de plus en plus, on a commencé à faire des groupes multi-maladies où ils se retrouvent avec des diabétiques, des hypertendus, où chacun donne son expérience. Et le dernier, c'est le soutien psychologique aux soignants. C'est la prévention et la prise en charge du syndrome d'épuisement professionnel des soignants ou du burn-out. Pourquoi? Souvent, on parle de non-implication du personnel de santé. Mais on n'a pas pris soin de vérifier leur statut psychologique. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre en charge une personne vivant d'une pathologie chronique et incurable? Pourquoi? Parce que souvent, vous les accueillez, vous les suivez, et puis vous les accompagnez au cimetière. Si la personne psychologiquement n'est pas préparée, un jour il va déménager, il va demander une affectation, il va aller dans une autre ville, et puis là quand on va lui parler du VIH, il va te dire que lui, il ne fait pas VIH, il ne connaît pas. Parce que psychologiquement, il n'a pas pu supporter un certain nombre de choses. Ça, c'est le soutien psychologique. Maintenant, il y a le soutien spirituel. On va permettre aux leaders religieux, mais aussi aux praticiens de la médecine traditionnelle, d'évaluer les troubles spirituels chez la personne vivant avec le VIH. Et puis, s'il y a des problèmes spirituels, il va faire l'accompagnement spirituel de ce patient. En novembre 2022, le ministre de la Santé a reçu les leaders religieux. On avait 65 familles religieuses présentes. Et à cette occasion, il leur a donné une feuille de route qui les implique comme des acteurs communautaires à part entière dans le processus de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Avant ça, au niveau du PNLS, nous avons constaté que la plupart de nos patients se retrouvaient dans les camps de prière et chez les praticiens de la médecine traditionnelle. Mais vous ne pouvez pas faire d'action si vous ne savez pas où ils se trouvent. Donc la première action que nous avons entreprise, c'est d'identifier les camps de prière et les lieux de culte. On l'a fait à 25% sur le territoire national. Et on a sorti le répertoire des camps de prière et des lieux de culte première édition. Et puis, deuxième élément, c'est la protection sociale. Et puis le dernier élément, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre, le VBG. Voilà un peu les soins qui a été mis en place, le dispositif depuis 2020, qui est le document normatif des soins soutien. On a aussi un document de formation sur le soutien spirituel pour les acteurs du milieu confessionnel ou autres personnes, pour les former. Et quand on finit de les former, ils nous font un petit plan d'action. On leur donne la feuille de route en 8 points. Voilà un peu ce que nous faisons en termes de soins et soutien.
Soins et soutien, la conclusion avec Dr Mema Hélène, chef de service soins et soutien du programme national de lutte contre le sida.
Ça permet d'accompagner le malade, de l'aider à reprendre pied, de l'autonomiser et de lui donner la sécurité alimentaire. On dit la main qui en reçoit est toujours en dessous. Donc, notre politique, ce n'est pas de les laisser dans cet état, mais c'est de les amener à sortir.
Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.
Les soins et soutiens du VIH en Côte d'Ivoire sont cruciaux pour aider les personnes vivant avec le VIH à accéder aux conseils et aux tests VIH et pour une prise en charge immédiate et un maintien du traitement du VIH pour ainsi atteindre le niveau de bien-être le plus haut possible. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt. Thank you.